chemin de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour Michel.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Eh bien c'est toujours autour de votre livre, Les chemins sur les chemins de la sagesse, aux éditions BOD, et nous en sommes au chapitre de l'espérance, point d'interrogation.
Ah oui, point d'interrogation. Alors d'abord, le problème est le suivant. Comment se fait-il qu'après tant d'épreuves qu'un homme a subies, comment se fait-il qu'il puisse toujours attendre autre chose que ce qu'il a connu, espérer en un meilleur sort, hein? Par exemple, dans la Genèse, on nous dit que Adam et Ève ont perdu leurs deux fils. Le premier, pour Abel, pour avoir été assassiné ou tué par Caïn, et le deuxième, Caïn, pour s'être exilé. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont eu un troisième fils, Seth, S-E-T-H, qui signifie en hébreu « mise à la place ». Mise à la place. Hein. Normalement, ils auraient dû se dire « mais ça suffit, nous avons assez donné, hein. Bon, ne continuons pas ». Mais non, la force de vie a tout emporté, et beaucoup de parents qui ont perdu un enfant, soit par maladie, soit par accident, hein, ils rejouent ce scénario. Et par la suite, ils ont un autre enfant. C'est qu'on a affaire ici à de l'instinctif et non pas à du raisonné. Cette attitude consistant à continuer, hein, n'est pas logique. D'un passé négatif, on ne peut pas conclure logiquement à un futur positif. Voyons, Guylaine, voici un exemple. Supposons un cajot d'orange. La première rangée est pourrie. Qu'est-ce que je vais dire relativement à la rangée d'en dessous? Je dis, il est probable qu'elle sera aussi pourrie. Hein. Voilà, c'est plus logique. Hein. Elle peut ne pas l'être. Hein.
Et oui.
Mais on ne peut pas logiquement penser qu'elle ne le sera pas. Hein. Ce n'est pas la possibilité de l'existence d'un futur autre qui pose problème, mais la possibilité de la conclusion elle-même, de ce qu'on appelle l'induction, ou bien ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence, dans ce sens, à partir de l'examen du seul présent. Vous voyez, il y a un axiome scolastique qu'on utilisait au Moyen-Âge qui disait « de déposer ad esse non valet illatio », c'est-à-dire de pouvoir être à être, l'inférence n'est pas valable. Alors comment, par exemple, après avoir connu de grandes épreuves, attendre encore un miracle? Il me semble que le seul miracle, dans ce cas, ça serait qu'on puisse encore l'attendre. Hein. En vérité, l'attente d'autre chose de tout opposé à ce qu'on connaît déjà est d'ordre affectif, psychologique et non logique. L'Apocalypse dit « voici, je fais toute chose nouvelle ». D'accord, c'est une espérance, hein. Mais ce n'est pas logique si on considère les choses telles qu'elles sont dans la vie, hein, comme dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout n'est que vanité, etc. Grand texte nihiliste de la Bible, hein, l'Ecclésiaste, hein, comment se fait-il qu'on puisse espérer à quelque chose d'autre? Mais l'espérance va permettre beaucoup de ce qu'on appelle des résiliences, hein, après Boris Cyrulnik, hein, de redressement ou de résurrection. Alors il y a un adage latin qui nous dit « dum spiro spero ». C'est une forme de paronomase. La paronomase est une figure en stylistique qui consiste à employer deux mots, deux termes qui se ressemblent.
Au niveau des sonorités.
Ouais, au niveau des sonorités, c'est ça, hein, la paronomase. Tant que je respire, j'espère. Alors la version française, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Mais ce proverbe latin peut même être renversé, et dans ce cas-là, renforcé. « Dum spero spiro », c'est-à-dire « tant que j'espère, je respire ». Tant que je suis en vie, au sens spirituel de ce mot, hein, à ce moment-là, l'espérance me maintient debout. Hein. Si je n'éprouve pas cette tension qui me mène à attendre autre chose que ce que je vis présentement, je ne vis pas vraiment. Si donc je dis par inversion du proverbe « dum spiro spero hein, », tant que je respire, je l'espère, j'espère. Si je dis l'inverse, tant que j'espère, je vis, hein, en français, alors ça serait « tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie », ou simplement « l'espoir fait vivre ». Je ne me situe pas sur le plan d'une constatation biologique, simplement, respirer au sens biologique, mais sur un plan psychologique plus profond. Hein. Tout vivant espère pour vivre, hein, et non pas parce qu'il vit. Voilà. Alors c'est pour cela que l'Église catholique, enfin je viens d'un milieu catholique, je l'ai dit bien des fois, hein, je ne sais pas ce qu'il en est dans le monde protestant, et puis peut-être l'Église catholique a-t-elle évolué là-dessus, mais elle a longtemps refusé d'enterrer religieusement les suicidés. Pourquoi ? Parce que les suicidés ont manqué d'espérance. Hein. Le suicidé, d'ailleurs, est souvent appelé chez nous « désespéré », le désespéré. Hein. Et dans le texte de Charles Péguy qui s'appelle « Le porche du mystère de la deuxième vertu » dont j'ai parlé à la fin de l'émission précédente, hein, il nous dit la chose suivante « N'y aurait-il qu'un seul damné sur la terre, ce serait Judas ». Non pas pour avoir trahi Jésus, son maître, mais pour avoir ensuite désespéré d'être pardonné par Jésus au point de s'être pendu, d'aller se pendre, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ça a changé dans le monde religieux maintenant. Hein. Peut-être que le prêtre ferme les yeux, et fait comme si rien ne s'était passé, etc. Hein. Mais enfin, autrefois, on refusait, on ne les enterrait pas. Pas plus qu'on enterrait religieusement les comédiens, par exemple. Hein. Bon, vous voyez ce que l'histoire de Molière. Voilà. Bon, alors, vous savez que Dante a mis au fronton de son enfer, hein, la Divine Comédie de Dante comporte trois parties, hein, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Bon, au fronton de l'enfer, il a mis l'inscription suivante, laissez toute espérance, vous qui entrez. Hein. Et cette formule aurait pu figurer aussi au fronton des camps de concentration nazis, à la place de l'inscription connue, le travail rend libre. Hein. Rien de plus efficace, en effet, pour tuer un homme, que d'étouffer en lui toute trace d'espérance. C'est bien la meilleure façon. Hein.
C'est peut-être la seule, même.
C'est peut-être la seule, effectivement. Comment vivre sans inconnu devant soi, dit René Char. Hein. Donc, une sagesse vraiment humaine ne peut pas faire abstraction de ce fait. Alors, bon, nous allons écouter une chanson de Félix Leclerc qui s'appelle « Les 100 000 façons de tuer un homme » qui est pleine d'humour noir et grinçant. C'est une chanson peu connue mais qui, à mon avis, a une grande pertinence.
Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, voici la plus efficace. Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse, c'est le coup de fusil. La plus onéreuse, c'est le coup de canon. Ça demande une équipe entraînée au bruit. Il y a toujours la corde dite de pendaison. Pour le nœud coulant, faut avoir le don. Sûr que la noyade attire les moroses, mais pas garantie parce que l'eau réveille. Y a le bon vieux poison, mais là, faut la dose. Pas assez, tu dors, un peu trop, tu veilles. Le gaz est plus propre, pas de commentaires, mais à tout instant, gare au courant d'air. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. Le rasoir, ma foi, cette saloperie, assez fanatique parce que c'est tranchant. La hache, le couteau et la scie aussi, mais c'est un domaine bourré d'accidents. Très peu efficace, c'est la collision. Ça brise une face, laisse des lésions. Pour mourir de soif, faut la volonté, le dégoût de l'eau, surtout la santé. Non, vraiment, j'y tiens. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire, la plus achalandée, c'est difficile à dire. Les deux finissent en spasme, en soubresaut, en transe, mais les deux sont jolis. Le rire toujours comique et l'autre romantique. La chaise électrique, c'est très indécent. Sauter dans le vide, pas toujours prudent. Étrangler quelqu'un, c'est perdre ses sens. Le trancher, c'est pire, c'est les sens-dessous. Non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier. L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur. Et puis c'est gai dans une ville, ça fait des morts qui marchent.
Félix Leclerc sur FM+, pour l'émission de Michel Théron qui commente avec nous sur les chemins de la sagesse, et cela pour illustrer la question de l'espérance.
Ben oui, le chômeur, même indemnisé, n'a pas d'avenir. Hein, n'a pas d'avenir. Or, ce qui compte pour quelqu'un, c'est un avenir. Hein. Mmh. Comment vivre sans inconnu devant soi, comme je l'ai dit à partir d'une formule de René Char. Hein. Ça ne suffit pas. Le travail donne un but dans la vie, le fait d'être utile à la collectivité, d'une certaine façon, et d'avoir une certaine fierté, une certaine dignité. Tandis que quand on indemnise quelqu'un à ne rien faire, eh bien, on le nie en tant que possédant une certaine valeur, une valeur humaine. Il n'a plus de dignité, il est dépossédé de sa dignité. Donc, j'aime beaucoup cette chanson, et puis la fin, alors, hein. Et puis, séguer dans une ville, ça fait des morts qui marchent. C'est de l'humour noir, grinçant, au plus haut point, vous voyez. Voilà. Donc, nous venons de voir que l'espérance, c'est ce qui fait, l'espérance d'un futur, c'est ce qui fait un homme. Sans vision, le peuple périt. Je crois que c'est la Bible qui dit ça aussi, quelque part. Eh bien, vous voyez, Guylaine, maintenant, nous allons tout renverser. Alors, pourquoi? On renverse la table.
Voilà. Vous nous avez habitués maintenant, Michel. Voilà. Ça fait presque un an.
Oui, ce qu'on appelle l'antipratique et l'antilogie, comme disaient les sophistes, c'est-à-dire développer le point opposé, hein, ou bien la palinodie, dire autre chose, l'inverse de ce qu'on vient de dire. Hein. Alors nous allons voir que parfois l'espoir fait vivre, comme nous venons de le dire, mais parfois il empêche de vivre, parce qu'il nous coupe du présent. Hein. Bon, on se trouve bien dans l'espérance, on y voit quelque chose de rassurant, comme le contraire de la peur, mais précisément, si ces deux notions, l'espérance et la peur, n'étaient pas opposées, mais indissolublement liées l'une à l'autre, si l'une engendrait forcément l'autre, si la compagne de l'espérance était la peur elle-même, qui lui serait attachée comme son ombre, et le suivrait partout où elle se manifeste. Et cette fine remarque est remarquée, et développée, pardon, par un grand sage antique qui s'appelle Sénèque, à partir d'une maxime du stoïcien Hécaton, dans une lettre à l'adresse de son disciple Lucilius. Je lis le passage. « Tu cesseras de craindre, dit-il, c'est Hécaton, si tu cesses d'espérer. » Alors maintenant, Sénèque parle à Lucilius. « Tu demandes comment deux choses si opposées peuvent aller ensemble ?»« Eh bien oui, cher Lucilius, en apparence divisée, elles sont étroitement unies. Tout comme la même chaîne attache le soldat à son prisonnier, ainsi ces affections si dissemblables marchent de compagnie. Ce qui suit l'espérance, c'est la crainte. Hein. Spem, metus, sequitur. Metus, la crainte, sequitur, suit, spem, l'espérance. Hein. Voilà. Je ne m'étonne pas, continue Sénèque, qu'il y en aille ainsi. Toutes deux sont filles de l'incertitude, toutes deux en attente, en souci de ce qui adviendra. Mais ce qui surtout les fait naître, c'est qu'on ne se satisfait pas du présent, c'est que l'on projette bien au loin ses pensées dans l'avenir. Ainsi, la pensée du futur, l'un de nos plus grands biens sur cette terre, s'est tournée en mal. L'animal voit le danger et le fuit. Si le danger s'éloigne, sa sécurité renaît. Mais quant à nous, l'avenir nous torture en même temps que le passé. Beaucoup de nos biens nous nuisent. C'est très beau, ça, c'est très juste. Bona multa nobis nocent, hein. Beaucoup de nos biens nous nuisent. Hein. La mémoire ramène les angoisses de la peur, la pensée du futur les anticipe, nul n'est malheureux s'il se contente du seul présent. C'est dans le livre 1, la lettre numéro 5, des lettres à Lucilius de Sénèque. Alors, cette citation est d'une grande justesse et tous les mots sont à peser. Hein. Ce qui suit obligatoirement l'espérance et la crainte, alors pourquoi ? Crainte, bien sûr, que ce qu'on espère ne se produise pas. Et par conséquent, on doit conclure que le meilleur moyen de se délivrer de la crainte, c'est de cesser d'espérer. L'espérance, qui se projette dans le futur, nous fait oublier le présent. Et dans le présent, vivent les animaux pour leur propre bonheur. Hein. Montaigne, dans ses essais, au livre 1, essai numéro 40, raconte l'anecdote suivante. Le philosophe Piron, c'est un philosophe sceptique, P-Y-R-H-O-N, Piron, un philosophe sceptique, Piron, se trouvait un jour en bateau pendant une grande tempête. Et alors, les matelots étaient effrayés, hein, ils avaient peur, ils imploraient leur dieu d'échapper au naufrage, etc. Et Piron montrait aux matelots, pour les encourager, un pourceau, un cochon, hein, qui se trouvait sur le pont du bateau et qui ne se souciait nullement de l'orage. Et Montaigne conclut, à quoi bon d'avoir la connaissance des choses si nous en perdons le repos et la tranquillité qui seraient les nôtres sans cela et si elles rendent notre condition pire que celle du pourceau de Piron. Hein. C'est vrai que l'animal vit dans le seul présent. Prenez un chien, un chat, hein, il n'anticipe pas le futur. Hein. Mais nous, nous sommes prisonniers de deux choses. D'une part, la mémoire qui nous rappelle nos échecs passés, hein, et deuxièmement, la crainte relativement à ce qui arrivera.
Hein. Ça, une anticipation.
Une anticipation.
Excessive.
Or, craindre ce qui arrivera plus tard, c'est absurde, parce que ou bien ces choses sont inévitables, on ne peut pas les éviter, donc c'est pas la peine de les craindre, ou bien elles n'arriveront jamais. Hein, voilà. Vous voyez donc, dans les deux cas, nous avons tort. Hein. Le pourceau de Piron vivait dans le seul présent, mais nous n'avons pas sa sagesse, hein, et Sénèque a raison ici. L'avenir nous occupe dans l'espérance, le passé nous retient dans la mémoire, et nous ne vivons jamais, hic et nunc, ici et maintenant. Quant à la peur, elle est amenée dans notre esprit à la fois par le souvenir des peurs passées et par l'anticipation que nous faisons pour l'avenir en pensant à l'échec possible de nos souhaits, à la non-survenue de ce que nous espérons. Ainsi, l'espérance, on le voit, serait à la fois la meilleure et la pire des choses, comme la langue d'Ésope. Hein. Je pense par exemple à la boîte de Pandore, hein, dont tous les mots s'échappèrent et se répandirent sur la terre par l'imprudence de l'héroïne. Pandore a ouvert cette boîte, elle était femme donc curieuse. Alors là, je vois l'indignation des féministes qui sont à l'écoute. Hein. Pandore, ça veut dire tous les cadeaux, hein, tous les dons. Elle avait donc une boîte, hein, elle a voulu voir ce qu'il y avait dedans. Tous les mots s'en sont échappés. Elle a eu le temps de refermer le couvercle de la boîte et est restée au fond de la boîte l'espérance. Donc là, l'espérance est positive. Hein. Elle est positive. Donc c'est la meilleure des choses. Mais elle est aussi la pire, l'espérance, car elle nous empêche d'être heureux en nous concentrant sur le moment présent. Hein. Et bien loin de nous délivrer de la peur, elle est inséparable de la peur, car elle engendre nécessairement la peur. Hein. Et alors on a ici le cas particulier d'une règle générale qui ouvre des abîmes pour quiconque recherche la sagesse, que nous avons déjà entrevue dans l'émission consacrée à agir. Point d'interrogation. Cette constatation est la suivante. Beaucoup de nos biens nous nuisent. Multa, bona, no, nostra, nobis, nocam, comme je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de nos biens nous nuisent. Hein. Alors, les remarques du philosophe sont extrêmement fines. Voyez, Guylaine, je pense qu'il y a parfois des cas où l'espoir fait vivre, et parfois des cas où l'espoir empêche de vivre. Voilà. Donc c'est les deux. Hein. Alors en cette matière, une opinion tranchée est insuffisante.
Mais est-ce que vous auriez une préférence, vous ?
Moi, je pense que tout dépend du kairos, de la circonstance. Une bonne question, Guylaine. Tout dépend de la circonstance. Mais l'anticipation est absurde. Par exemple, tenez, pour prendre la mort. Sénèque le dit très bien. Mortem timere, crudelius est quam mori. C'est-à-dire, craindre la mort est plus cruel que de mourir. L'appréhension de la mort nous fait beaucoup plus de mal que la mort elle-même. Hein. La mort elle-même, comme le disait Malraux, c'est pas quelque chose de très sérieux. La souffrance, oui. La douleur, oui. Hein. Mais, et d'ailleurs, justement, les sages antiques, Épicure le premier, disait que c'est absurde de craindre la mort, puisque quand nous sommes en vie, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous ne sommes plus là pour la sentir. Hein. Nous ne sommes pas là. Hein. Donc, la mort n'est rien pour nous. Ouais. O thanatos, meden, uden, prosemas. Hein. Voilà, la mort n'est rien pour nous. Hein. Donc, elle ne nous concerne pas. La mort n'arrive qu'une fois, elle se fait sentir à tous les moments de la vie, parce qu'on l'appréhende et on en a peur. Hein. Et finalement, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas rationnel. Je crois que j'ai parlé déjà des désespérés appelés les suicidés. Oui. Je pense que c'était dans la précédente émission. Hein.
Oui.
Prenons le cas du suicide. Bon. Pour l'Église, c'était évidemment manquer d'espérance et donc un péché irrémissible, hein, voilà, où l'on refuse l'inhumation religieuse. Hein, bon, mais les sages antiques ne pensaient pas comme ça. Hein. Regardez ce que dit Sénèque, c'est très beau ce qu'il dit à Lucilius dans le livre 1 et la lettre numéro 12. Il dit « Il est mauvais de vivre dans la nécessité, mais il n'y a aucune nécessité de vivre dans la nécessité ». Alors je le dis en latin, hein, malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere, necessitas nulla est. Hein. Bon, c'est-à-dire, c'était un signe de liberté.
Ouais.
Pour le sage antique, c'était un signe de liberté. C'était pas un signe d'abandon de poste, comme on dit en grec, l'hypotaxia. On abandonne son poste, comme l'ont dit les chrétiens. Hein. Alors, je crois que la position antique ne doit pas être méprisée ou balayée d'un revers de la main. Hein. Cette sacralisation inconditionnelle de la vie dont on parle beaucoup actuellement, qui est très, très actuelle, hein. C'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion et qu'on ne peut pas résoudre très simplement par une position de principe. Hein. Non. Je crois, vous me posez la question, qu'est-ce que je pense régulièrement ? Il n'y a pas de principe, vous voyez, il n'y a pas de principe universel. C'est le début du Tao Te King de Lao Tzu. C'est la voix, vraiment voix, la voix, le Tao, la voix, le Tao, la voix, vraiment voix, n'est pas une voix constante. Les termes, vraiment termes, ne sont pas des termes constants. Hein. Donc, tout dépend de circonstances, de ce qu'on appelle le kairos en grec. Hein. Je dirais qu'il est sage à la fois d'éprouver l'espérance, comme soutien et justification de la vie, et sage, dans un autre contexte, de l'ignorer comme fallacieuse et source de soucis. Je pense, et je le répète, qu'il y a des cas où l'espoir fait vivre et d'autres où il nous empêche de vivre. Tout est affaire de point de vue, de moment opportun, de kairos. Hein. Moi, j'ai fabriqué dans ce livre malicieusement une nouvelle béatitude. Heureux ceux qui n'espèrent rien, car ils ne seront pas déçus. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est totalement, comment dire, irréfutable. Hein. Il faudrait accueillir tout ce qui vient à nous, sans attendre les choses, les accueillir quand elles viennent, hein. Voilà, ne pas les attendre, ne pas préparer ses joies. Gide le dit dans les nourritures terrestres, hein. Nathanaël, ne prépare pas tes joies, hein. Il faut être dans une position de disponibilité, non pas dans une position d'attente. La chose arrive, réjouissons-nous de la chose, ou acceptons-la, hein, qu'elle soit, fiat, qu'elle soit ainsi, etc. Mais l'attendre, non. Celui qui cherche, disait Kafka, ne trouve pas. Celui qui ne cherche pas est trouvé. Hein. Bon, nous sommes trouvés par ce qui est important. Par exemple, je ne sais pas si vous avez cherché des champignons, Guylaine.
Ça fait très longtemps. Ouais.
Eh bien, il y a des cas où on les cherche, on ne les trouve pas. Et puis, quand le champignon surgit devant nous, tout se passe comme si c'était le champignon qui nous trouvait.
Ouais, hein.
Il venait au devant de nous. Hein. Donc, sachant accepter les choses sans les rechercher. Je crois que là, ce serait une solution de sagesse relativement à cette notion d'espérance. Alors, donc, je ne voudrais pas que de toutes ces considérations se dégage l'idée d'un nihilisme. Le nihilisme, c'est ne croire à rien. Pas du tout. Moi, je ne suis pas nihiliste. Mais je pense qu'il faut que chaque position est différente dans la vie. Et tout dépend justement de telle ou telle situation. Hein. Donc, on ne peut pas savoir a priori. Hein. Je disais à l'instant que ces problèmes de la sacralisation inconditionnelle de la vie se poser actuellement, beaucoup. Hein. Moi, je suis très prudent là-dessus. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Est-ce que, par exemple, il faut refuser l'avortement à une femme victime d'un inceste ou d'un viol? Je ne sais pas. D'abord, je pense, vous voyez, Guylaine, que moi, je ne suis pas compétent pour en parler. C'est aux femmes d'en parler.
Hein.
C'est aux femmes.
La sagesse, là, ne peut pas s'appliquer
Non, c'est pas masculin, ça. C'est quelque chose. C'est aux femmes de dire ce qu'elles pensent, justement, ce qu'elles ressentent de la question de l'avortement. Hein. Ouais. Je vois pas pourquoi les hommes s'en occuperaient, hein, puisqu'ils ne sont pas concernés au premier chef. Hein. Bon, mais vous avez des lobbies intégristes qui sacralisent tellement la vie, qui refusent l'avortement à tel ou tel moment, dans telle ou telle circonstance dramatique. Hein, ou bien s'agit-il de la vie de la mère, etc. Vous voyez, hein. Et puis sacraliser la vie. Prenez par exemple le cas d'une cellule tumorale, d'un cancer. Eh bien, le tragique, c'est qu'elle ne meurt pas, cette cellule. Elle prolifère. Hein. La cellule ne peut pas accomplir son suicide génétiquement programmé, qu'on appelle l'apoptose en médecine. Hein. Normalement, les cellules doivent mourir. Mais le cas d'une cellule cancéreuse, c'est qu'elle ne peut pas mourir, précisément. Elle se développe sans mourir. Et donc, on voit bien que là, sacraliser inconditionnellement la vie... ne tient pas, il me semble.
On n'est plus dans la sagesse.
Ah, voilà, on n'est plus dans la sagesse, on est dans une espèce d'obstination folle. Mm-hmm. Bon, cela dit, moi je dis que cette histoire-là, justement, de la vie dépend des femmes, c'est elles qui la transmettent, c'est à elles de dire comment elles sentent les choses. Je vois pas pourquoi les hommes s'occuperaient de régenter ce domaine-là. Hein. Mm-hmm. C'est pas d'eux que cela dépend. Pour une fois, je suis féministe, et j'espère que je me rachète aux yeux des auditrices.
Totalement, Michel, vous avez racheté toutes
les auditrices
vos
qui sont choquées par ce que je peux leur dire.
Bien, on s'arrête là, Michel.
Voilà, on va s'arrêter
on
là. La prochaine fois, on parlera du désir.
Non,
on parlera du chapitre désir, point d'interrogation.
Un autre grand sujet de la vie.
Voilà. Au revoir à tous.
Au revoir et merci.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.